France Info.
À la une, les agriculteurs français en colère contre l'Union européenne. Le traité avec les pays du Mercosur va bien être appliqué de façon provisoire. Reportage à suivre au Salon de l'agriculture. Dans ce journal aussi, sont-ils lassés de leur travail de député? Ils sont une centaine de députés en campagne pour les municipales. À Gaza, les ONG obtiennent un sursis pour continuer à exercer dans l'enclave. Le retour du pass culture à l'école. Et puis, ils misent tout sur la France. Les Spurs de San Antonio, les dirigeants de l'équipe de NBA, sont à Paris. Cette annonce qui a fait l'effet d'un choc en plein salon de l'agriculture, l'Union européenne va appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec les pays du Mercosur, une décision prise malgré l'opposition de la France et alors que la Cour de l'UE a été saisie pour vérifier la légalité de ce traité. Louise Buyens, vous étiez au salon de l'agriculture hier, alors comment les producteurs et les éleveurs ont-ils vécu cette nouvelle ?
Pas bien du tout. Il ne s'y attendait pas et il dénonce un déni de démocratie. La mine défaite. Jean-Marc Alibert, éleveur de vaches limousines en Haute-Vienne, est très inquiet. Il a 300 bovins sur son exploitation et 80% de son chiffre d'affaires vient de la vente de viande.
Nos viandes vont être écoulées. La seule inquiétude que j'ai, c'est les tarifs. Le prix de nos viandes risque de baisser parce qu'en face, on va avoir des viandes qui rentrent à des tarifs très bas produits dans des conditions complètement différentes qui ne respectent pas du tout le même cahier des charges. Je ne vous apprends rien. Et là, par contre, c'est pas du tout normal.
Les conditions de production, c'est le sujet qui angoisse Guillaume Hardy pour l'avenir. Il fait pousser des betteraves sucrières en Eure-et-Loire qui seront en concurrence directe avec le sucre venu d'Amérique du Sud.
Déjà, on n'a plus le droit à l'acétamipride, on n'a plus de néonicotinoïdes. Le Brésil utilise des molécules de traitement qui sont chez nous interdites depuis 20 ans et ce n'est pas agréable de ne pas jouer avec les mêmes règles.
Les agriculteurs que j'ai rencontrés sur le salon appellent les syndicats à se mobiliser. Hier déjà, une trentaine d'agriculteurs ont manifesté sur le stand de l'Union européenne. Ils ont explosé des ballons pour se faire entendre.
Reportage au Salon de l'agriculture, Louise Buyens pour France Info. À 15 jours du premier tour des municipales, l'Assemblée nationale suspend ses travaux pour 3 semaines sans avoir terminé l'examen du projet de loi contre les fraudes. Les dépôts de listes pour les élections sont clos. Dans ce scrutin, une centaine de députés sont candidats. C'est plus qu'en 2020, ils étaient 63. Des députés qui se lassent peut-être, Marie Mollet, du travail parlementaire.
Il y a d'abord les 49-3 à répétition, le sentiment d'un travail vain, inutile, comme le reconnaît un député Liotte, parti à la conquête d'une mairie dans sa circonscription, la crainte que le blocage actuel ne soit pas réglé en 2027, qu'il y ait encore une assemblée coupée en trois et l'impossibilité de faire passer des réformes de poids. Il y a un mal-être, résume une élue socialiste, qui quitte l'hémicycle après plus de 15 ans de mandat. Un ministre analyse, beaucoup de députés veulent se sécuriser à l'échelon local, car il redoute aussi de siéger dans l'opposition face au RN après 2027. Dans le parti d'extrême droite, justement, près d'une trentaine de députés partent à l'assaut des municipales cette année, signe aussi des problèmes de ressources humaines du RN qui peine à trouver des candidats pour consolider son implantation locale. Même constat à LFI, près de 20 députés insoumis seront candidats en mars, avec en ligne de mire aussi les élections sénatoriales dont dépend le nombre d'élus dans les mairies.
Dans l'affaire Epstein, cette information de la cellule d'investigation de Radio France, Jeffrey Epstein a joué les intermédiaires entre la banque Edmond Rothschild et le diplomate français Fabrice Edan, soupçonné d'avoir consulté des sites pédopornographiques par le FBI. Il a été renvoyé de la banque en 2016. C'est là que Jeffrey Epstein est intervenu pour jouer les médiateurs et lui permettre d'obtenir une somme conséquente pour son départ. Le Canada annonce à son tour relocaliser temporairement une partie de son personnel diplomatique de Tel Aviv face aux menaces de frappes américaines. Les Américains ont recommandé à leur personnel non essentiel de l'ambassade à Jérusalem de quitter Israël. La France ainsi que l'Allemagne déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans le pays. Et Donald Trump affirme ne pas avoir encore pris de décision sur l'Iran, alors que dans les négociations, Téhéran accepte, selon les médiateurs, de ne pas stocker d'uranium enrichi. France Info, 6h04, les 37 ONG qui opèrent à Gaza ne seront pas expulsées de l'enclave. La Cour suprême israélienne suspend temporairement leur radiation voulue par le gouvernement. Ces organisations humanitaires dont Médecins sans frontières vont donc pouvoir continuer à travailler, en tout cas pour l'instant. Le reportage dans une clinique de MSF de Gazaville de Thibault Lefebvre.
C'est dans le service de chirurgie orthopédique de la clinique MSF de la ville de Gaza que Rami Al-Maghari a rencontré Saïd Abou Saada. Il a la jambe droite fracturée et ce sont des médecins de MSF qui ont installé une broche le long de l'os abîmé.
Il soulage nos souffrances. Il nous procure tout ce dont nous avons besoin, comme des pansements par exemple. Dans nos hôpitaux, il n'y a même plus de simples pansements. La guerre nous a complètement ruinés.
Comme Saïd, 150 à 200 patients viennent tous les jours se faire soigner ici. Le rythme des bombardements de l'armée israélienne a ralenti depuis le cessez-le-feu précaire imposé par Donald Trump le 10 octobre dernier. Mais les besoins restent immenses. Hunter McGovern est chef de mission MSF à Gaza.
La situation pour les grands brûlés est en ce moment particulièrement mauvaise. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans des abris, dans des conditions précaires, qui utilisent évidemment du feu. On reçoit donc beaucoup de victimes de brûlures, des enfants en particulier. C'est aussi ce type de soins que l'on trouve dans cette clinique.
Médecins sans frontières a besoin de médicaments. Tous les patients ne peuvent pas être traités. L'acheminement de l'aide humanitaire est très aléatoire. Et le conflit avec les autorités israéliennes n'a évidemment rien arrangé.
Un reportage Thibault Lefebvre à Jérusalem avec Rami Al-Maghari à Gaza. Un risque d'incendie au niveau des tableaux de bord. BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules dans le monde. C'est la deuxième mesure de ce genre en moins d'un mois pour le constructeur automobile allemand. Le retour du pass culture pour les établissements scolaires, l'enveloppe qui leur permet d'organiser des sorties au théâtre ou de faire venir des intervenants, avait été gelée il y a un an. Il est donc relancé, Noémie Bonin, maintenant que la France s'est dotée d'un budget.
Sorties au cinéma, au musée, concerts pédagogiques, pièces de théâtre ou encore interventions en classe de musiciens et de comédiens. Tous ces projets ont beaucoup été financés ces dernières années par cette part collective du pass culture. L'arrêt brutal l'an dernier avait mis en grosse difficulté les établissements scolaires comme bon nombre de théâtres et de compagnies. Là, les nouveaux fonds sont disponibles. 38 millions d'euros sont prévus, mais jusqu'à la fin de l'année scolaire seulement, en juin prochain, une autre enveloppe sera ouverte en septembre pour les projets du premier trimestre. On ne connaît pas encore son montant, mais il y a fort à parier que l'ensemble soit plus faible que les 72 millions d'euros alloués l'an dernier. Le ministère rappelle aujourd'hui le contexte budgétaire contraint dans lequel il se trouve. Cette séparation en deux des enveloppes sur l'année est une nouveauté. L'objectif, c'est d'éviter que tous les crédits soient grignotés en quelques semaines, ce qui avait été le cas l'an dernier. Le dispositif conçu pour permettre l'accès à la culture au plus grand nombre était victime de son succès. Quasiment 100% des établissements scolaires ont déjà utilisé le pass culture.
Une précision signée Noémie Bonin, service éducation de France Info. Une victoire dans la douleur hier soir pour l'équipe de France masculine de basket, 74 à 71 en Hongrie, pour la première des confrontations entre les deux pays en vue de la qualification à la Coupe du Monde 2027. Et pendant ce temps-là, la NBA est à Paris, pas les joueurs, mais les dirigeants des Spurs de San Antonio. Ils viennent à la rencontre des fans et des communes liées à Victor Wembanyama, membre de cette équipe de basket texane, car les Spurs, depuis Tony Parker jusqu'à Wemby, ont la France en ligne de mire, Xavier Monferrand.
Hello, how are you? Bonjour.
Lunettes rouges sur le nez, Patricia Meria est venue jusqu'au Chesnay, en banlieue parisienne, à la rencontre des enfants et de la presse sur le terrain que l'équipe de basket de San Antonio a fait construire l'an dernier dans la ville du héros local Victor Wembanyama. La France est désormais un enjeu stratégique pour les Spurs, selon la directrice en charge de l'impact et de l'inclusion de la franchise texane.
Bien sûr, on espère trouver un nouveau Victor. La France, c'est vraiment la famille. On veut continuer à développer ses relations, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. On veut vraiment s'assurer de construire sur la durée avec ce pays et la région en général.
Avec Victor Wembanyama, les Spurs tiennent leur franchise player, un joueur sur lequel ils peuvent construire et donc investir, et pas seulement au Texas, mais aussi dans un marché capital pour la NBA, l'Europe et la France en particulier, explique Ogi Black, l'un des entraîneurs du programme Junior NBA.
Il y a une volonté de vraiment miser sur la France. Si vous regardez l'engouement des jeunes, le nombre de personnes qui ont un intérêt sur les investissements basket, oui, le basket fait partie de la culture.
Et ce matin, toute la direction des Spurs de San Antonio est à Nanterre, ancien club de Wemby, pour l'inauguration d'un autre terrain de basket rénové par la franchise texane.
Xavier Monferrand, France Info, il est 5h09, la météo avec vous, Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour Diane.
Et c'est un temps nuageux, mais des températures douces qui nous attendent.
Oui, les températures baissent un petit peu, mais on reste toujours au-dessus des normales de saison. Météo France prévoit jusqu'à 17 degrés de maximum cet après-midi à Ajaccio, 15 à Bordeaux, 13 à Paris, 12 à Reims, 11 11 degrés à Lille. Et côté ciel, c'est encore assez nuageux dans l'ensemble, encore humide. Un temps qui va même rester couvert et humide toute la journée entre les Pyrénées, le Massif central et la Franche-Comté, avec un peu de neige sur les Alpes et sur les Pyrénées au-dessus de 1300 mètres. On espère retrouver quelques éclaircies dans l'après-midi sur une large moitié ouest, mais toujours avec un risque d'averse. Le ciel sera plus lumineux cet après-midi dans le sud-est.
Patricia Charbonnier, on vous retrouve dans 20 minutes.
L'œil de Julie, du vendredi au dimanche sur France Info.
Bonjour, c'est Julie Vialon, je vous retrouve chaque fin de semaine. On décrypte ensemble Internet, les réseaux sociaux et la pop culture.
Le vendredi à 7h55 et le week-end à 7h45, retrouvez l'œil de Julie avec Julie Vialon sur France Info.
France Info, 6h10, la suivre cette tension qui semble monter encore d'un cran entre les États-Unis et l'Iran et la crainte de frappe américaine qui s'accentue alors que les négociations se poursuivent en parallèle entre Washington et Téhéran. Et puis, les répercussions de l'affaire Epstein en France, mais d'abord aux États-Unis.
France Info, 6h-7h, Diane Ferschit.
Après Hillary Clinton, l'ancien président Bill Clinton a été auditionné par une commission du Congrès aux États-Unis. Audition filmée qui sera rendue publique dans les heures qui viennent. Des heures d'interrogatoire concernant ses liens avec Jeffrey Epstein. Et l'ancien président Laurent Kramer a témoigné sous serment, répondant à toutes les questions.
Oui, car Bill Clinton ne s'est dérobé à aucune question, affirment les élus démocrates. Dans sa déclaration liminaire, l'ancien président a néanmoins réaffirmé qu'il n'avait rien vu, rien fait de mal et qu'il n'avait aucune connaissance des crimes commis par Jeffrey Epstein. Côté républicain, le président de la commission parlementaire souligne que Bill Clinton a néanmoins voyagé 27 fois à bord du jet privé du financier et que Jeffrey Epstein est venu 17 fois à la Maison-Blanche sous son mandat. Personne n'est au-dessus des lois, il est tout à fait normal que je vienne témoigner ici, a pris soin de préciser l'ancien président démocrate. Mais attention, Bill Clinton n'est ni accusé ni poursuivi de quoi que ce soit, ont martelé les élus démocrates, interrogés sur une photographie dans un jacuzzi où l'ancien président est en compagnie d'une jeune femme. Bill Clinton a simplement répondu qu'il ne savait pas qui était la personne sur la photo et qu'il n'avait eu aucune relation sexuelle avec cette femme.
Et la transcription complète et la vidéo de son audition vont être publiées, Laurent, en intégralité.
Oui, c'est d'ailleurs la volonté du couple Clinton qui souhaitait une audition publique et c'est la ligne de défense des parlementaires démocrates. Nous n'avons rien à cacher. Cette audition fait même la démonstration qu'il est en revanche nécessaire que tous les présidents viennent répondre aux questions des parlementaires. Ce n'est donc pas le bon président qui a été auditionné aujourd'hui. Visiblement satisfait des réponses de Bill Clinton, les démocrates estiment que cette audition apporte même des informations complémentaires sur les déclarations de Donald Trump, car Bill Clinton a notamment rapporté sous serment que Donald Trump lui aurait expliqué avoir rompu toute relation avec Jeffrey Epstein suite à un simple différend immobilier, déclaration qui vient contredire la propre version de Donald Trump, qui a toujours jusqu'ici affirmé avoir rompu avec le pédocriminel dans les années 2000 pour des raisons morales liées à son comportement. À deux jours d'intervalle, cette audition du couple Clinton n'a eu pour effet que de relancer en boomerang l'affaire Epstein vers l'actuel président des États-Unis. Les démocrates estime désormais que si Bill Clinton a accepté de témoigner sous serment, Donald Trump n'a plus d'excuses pour s'y soustraire.
En précision signée Laurent Kramer. Et dans cette affaire, les millions de documents publiés en janvier montrent aussi l'étendue des réseaux du pédocriminel Epstein en France. Il a ainsi conseillé pendant des années Ariane de Rothschild, patronne de la banque Edmond Rothschild, qui en 2013 avait embauché un diplomate français proche du financier américain Fabrice Edan. L'homme a fait l'objet d'enquêtes classées sans ensuite, en France et aux États-Unis, les documents de la justice américaine que vous avez épluchés, Élodie Guégan, à la cellule Investigation de Radio France, montrent comment Jeffrey Epstein a tenté de jouer pour lui les médiateurs quand il a été licencié de cette banque Rothschild.
Oui, pour Fabrice Edan, les ennuis chez Rothschild commencent en avril 2016, au moment de la sortie d'un livre sur la face cachée du Quai d'Orsay. Dans un chapitre intitulé « Un pédophile impuni », le journaliste Vincent Jauvert raconte qu'en 2013, un diplomate français en poste à l'ONU a été exfiltré des États-Unis. Il était alors sous le coup d'une enquête du FBI, soupçonné de consulter régulièrement des sites pédopornographiques. Le diplomate, écrit encore Vincent Jauvert, père a pu revenir sans encombre au Quai d'Orsay avant d'intégrer une banque d'affaires. Stupeur chez Edmond de Rothschild, où l'on reconnaît Fabrice Edan à travers ce portrait. La banque redoute un préjudice en termes d'image et décide donc de le licencier. Jeffrey Epstein suit l'affaire de près. Il connaît bien Fabrice Edan depuis son passage à l'ONU auprès du diplomate norvégien Terje Rød-Larsen. Le financier new-yorkais décide alors de jouer les négociateurs.
Et que fait-il précisément ?
Eh bien, il suggère à Ariane de Rothschild de faire un chèque au diplomate qui, selon nos informations, menace alors de saisir les prud'hommes pour contester son licenciement. « Si tu veux me donner un chiffre pour régler le problème, je m'en occuperai », écrit-il par exemple à la dirigeante du groupe suisse. En mai 2017, il envoie aussi ce SMS à Fabrice Edan. « Si je peux t'obtenir 100 000 par an pour 3 ans, est-ce que tu les prendrais ?» Aujourd'hui, la banque Rothschild refuse de dévoiler le montant finalement accordé aux diplomates. Elle dit aussi n'avoir jamais demandé au pédocriminel Jeffrey Epstein de jouer les médiateurs.
Et après son passage chez Rothschild, Fabrice Edan a continué, Élodie, sa carrière comme diplomate détaché du Quai d'Orsay.
Oui, il a travaillé pour l'UNESCO et pour le groupe ENGIE. En 2020, comme la cellule investigation de Radio France vous le révélait, il a fait l'objet d'une enquête pour des penchants supposés pour des mineurs. L'enquête a été classée sans suite. Fabrice Edan a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés aux États-Unis. Nous avons contacté son avocate. Elle n'a pas répondu à nos questions.
Élodie Guéguin, cellule investigation de Radio France. Votre enquête complète est à retrouver sur franceinfo.fr.
À 6h16 sur France Info, il fait 10 degrés à Lille.
Et cette question ce matin, les États-Unis sont-ils sur le point d'attaquer l'Iran? Donald Trump assure qu'il n'a pas encore pris sa décision, mais plusieurs signaux dans la région indiquent qu'une attaque pourrait être imminente. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Donald Trump continue à souffler le chaud et le froid.
Oui, ceux qui lui ont parlé ces derniers jours et dont la presse rapporte les propos décrivent un Trump hésitant, parfois convaincu qu'il est temps d'attaquer, que l'Iran est plus faible que jamais et parfois enclin à donner du temps à la diplomatie. Les propos que le président américain a tenus hier reflètent cette indécision. Nous n'avons pas encore pris une décision finale. Nous ne sommes pas très contents de la manière dont il négocie. On a la meilleure armée du monde, de loin. Je préférerais ne pas l'utiliser, mais parfois il le faut. Et Donald Trump ajoute que les Iraniens ne veulent pas nous donner ce que nous devons avoir. Il précise aussi que l'Iran ne devrait effectuer aucun enrichissement d'uranium.
Et pourtant, Franck, la diplomatie reste à cette heure active.
Oui, le ministre Omanet des Affaires étrangères était hier à Washington, où il a été reçu notamment par le vice-président J.D. Vance. C'est le principal médiateur des discussions et il assure qu'il y a eu des avancées. Les Iraniens seraient prêts à renoncer au stockage d'uranium enrichi, à s'engager à ne pas disposer de matière leur permettant de fabriquer une bombe. Reste à savoir si Donald Trump sera convaincu par l'argument. Le Moyen-Orient semble en tout cas se préparer à la guerre. Plusieurs pays ont demandé à leurs ressortissants d'être vigilants, voire de quitter l'Iran ou Israël. Les États-Unis ont d'ailleurs demandé au personnel non essentiel de leur ambassade à Jérusalem de quitter Israël.
Franck Madvon, correspondant de France Info à Washington. Et dans tous les cas, les énormes moyens militaires envoyés par le président américain sont désormais en place. Pour le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York, tout va dépendre de la position des Israéliens.
Sur le plan militaire, l'implication d'Israël est importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Mossad est extrêmement bien infiltré en Iran et permettra de donner le ciblage voulu pour les Américains. Deuxièmement, parce que si Israël est attaqué par l'Iran parce qu'Israël mène ses actions en premier, à ce moment-là, ça donne une bonne excuse au dispositif américain pour se déployer en protection d'Israël, comme il l'avait fait au mois de juin, il faut s'en souvenir. Et aujourd'hui, les Américains, enfin le président Trump, est devant une impasse. Il a déployé des moyens considérables et n'a rien obtenu de la part des Iraniens. Donc il est contraint d'agir et il va chercher un moyen pour agir sans s'opposer à son électorat.
Et comment il peut faire? Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que jamais Washington n'a déployé un tel arsenal pour ne rien faire.
Eh bien, avoir une provocation quelconque de la part des Iraniens ou avoir une action des Israéliens qui, comme au mois de juin dernier, ont contraint les Américains à attaquer.
Ça fait beaucoup de scie quand même.
Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Si vous voulez, les moyens sont là. Comment les utiliser ? Il va les utiliser contre l'avis des pays de la région et contre l'avis de son électorat. Donc il faut bien qu'il trouve une entourloupe pour arriver à intervenir. Et l'occasion peut lui être provoquée par M. Netanyahou, les Israéliens, eux souhaitant à toute force intervenir.
Le général Dominique Trinquant au micro de Soisigbourg sur France Info.
BMW. Trois notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290 euros par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si l'accord BMW finance. Conditions sur bmw.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun. France Info. 6h-7h.
Dans une minute, plongée dans la campagne des municipales à 15 jours du premier tour et cette question, comment font les communes où il n'y a aucun candidat? Et puis les experts cinéma, Matteo Maestracci fera le tour pour nous des sorties de la semaine. Mais d'abord, 6h20, c'est l'heure de l'essentiel de l'info. Bonjour Sarah Der.
Bonjour.
L'Union européenne applique provisoirement le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur.
Ce qui provoque la colère des syndicats agricoles, c'est un déni de démocratie, dénonce la FNSEA. Une vingtaine d'agriculteurs ont protesté hier contre cette décision au stand de l'UE, au Salon de l'Agriculture à Paris. De 5 à 18 ans de prison ferme, les 8 jeunes hommes reconnus coupables hier du meurtre de Saïdou, 15 ans, c'était en 2020. L'un d'entre eux, accusé d'avoir porté le coup mortel, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Décision de la cour d'assises de l'Essonne. À Milan, pourquoi le tramway a-t-il déraillé? 2 personnes sont mortes, une quarantaine de blessés. On ignore pour l'instant les raisons précises, mais le maire évoque une faute du conducteur, pas un problème technique. Des centaines de milliers de véhicules BMW rappelé dans le monde à cause d'un risque d'incendie. 337 000 voitures concernées. Il s'agit de la deuxième mesure du genre pour le groupe en moins d'un mois.
France Info. Municipales 2026.
Les municipales, premier tour dans 2 semaines et vous connaissez désormais les équipes sur la ligne de départ dans votre commune. Le dépôt de liste est clos. Alors en 2020, pour les dernières élections, 106 communes n'avaient aucune liste au soir du premier tour, 17 aucun maire à l'issue du second, notamment celle de Vaux-sur-Poligny dans le Jura. Elle a finalement dû fusionner avec sa voisine, la commune de Poligny, le reportage d'Yvan Plantaille.
Cela fait plus de 10 ans que la flamme semble s'être éteinte dans ce village de 82 habitants. En 2014, une liste est constituée dans les derniers instants de la campagne et en 2020, la commune passe 7 mois sans maire et personne n'a voulu reprendre le fauteuil, pas même Marie-Claude Foulet, l'ancienne première adjointe de Vaux, elle qui est pourtant inscrite sur une liste dans sa nouvelle commune, Poligny.
Les Comcom prennent de plus en plus de pouvoir, donc les communes n'ont plus guère à gérer.
Par exemple, les 100 000 euros de budget à peu près annuel, ils partaient dans quoi?
Dans les quelques travaux qu'on avait à faire, des gestions de route, des réfections de murs. Et on avait le budget de l'eau aussi qui était indépendant.
Et en effet, ici l'urbanisme est régulé par la communauté de communes. Pas d'école non plus, elle a fermé en 2012, plus de crèches ni de périscolaires. Et pas question de gérer les conflits de voisinage, raconte cet habitant Michel Dupont-Loup, engagé lui sur l'autre liste à Poligny.
Le problème d'une commune de 82 habitants comme la nôtre, c'est qu'il y a une certaine famille du coin qui se retrouve là-dedans et puis quelquefois il y a quelques distensions. Je veux vivre simplement dans mon village ou dans mon quartier maintenant. Pas me prendre la tête.
Vaux a pourtant un patrimoine historique singulier, un prieuré du Xe siècle qui a traversé les âges, un château du XIXe, mais les activités se font toutes hors du village, regrette André Mignot. Il est né ici il y a 83 ans.
Les enfants ici vont à l'école à Poligny, ils vont au sport à Poligny, vos associations elles sont faites à Poligny. Non, on a un quartier de Poligny et puis on ne sera pas plus mal.
Et si personne ne veut se présenter, selon lui, cela raconte aussi quelque chose de notre époque.
Quand il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de communes, c'est-à-dire les anciennes ont disparu, les nouveaux sont venus là, bon, pour refaire un fossé, faire quelque chose, j'ai pas le temps, il n'y a plus personne d'être intéressé. Pour faire vivre cette communauté.
Alors pour les habitants de Vaux, presque tous favorables à ce mariage, 2 conséquences. Leur taxe foncière va augmenter de 12 points, mais surtout, leur gentilé, leur nom d'habitant va changer. Et ce n'est pas pour déplaire à André Mignot.
Et le fait qu'on dise plus que vous êtes un Vauxois, mais un Polinois.
Disons que ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on ne nous appellera plus les Vauriens.
Reportage signé Yvan Plantaille pour France Info. Et comme promis, place aux experts cinéma ce matin. Matteo Maestrachi est avec William Gacosta.
C'est une fin de semaine chargée en actu ciné. Les Césars avaient lieu jeudi dernier. Voilà une nouvelle série de conseils de sortie avec notre expert cinéma. Bonjour Matteo Maestrachi.
Bonjour William.
On commence, Matteo, avec le documentaire Un été à la ferme, réalisé par Hugo Willock.
Moi, je crois que je serais grand. Si j'ai une ferme, je pense que je vais avoir des moutons.
Ouais.
Je sais pas, j'aime bien le mouton.
Et alors que le Salon de l'agriculture ferme ses portes demain à Paris, la question agricole, justement, et le quotidien souvent compliqué des éleveurs français est au cœur de plusieurs films du moment. Le réalisateur Hugo Willock a fait le choix de tourner, lui, à hauteur d'enfant dans une ferme de l'Avesnois, dans le nord de la France. On y suit trois personnages principaux, Grégory, le père, et ses deux garçons, Paul et Germain, pendant, comme l'indique le titre du film, un été à la ferme. Hugo Willock.
Le monde agricole est très vaste et très fracturé. Il y a plein de réalités très différentes. Mmh. Moi, je ciblais, on va dire, l'élevage moyen, petit moyen, par rapport à ce qui se fait dans la région là où j'ai grandi, dans le Nord. Donc là, c'est en gros une centaine de vaches. Le film n'a pas forcément de discours ou de gestes militants par rapport au monde agricole, mais c'était par contre essayer de représenter ce milieu-là, des petits élevages qui est en train de disparaître et qui est de plus en plus menacé par le monde agricole qui bouge à une vitesse grand V.
Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tu sois bien, pas bien, faut les traire, les vaches. Faut trouver la force, des fois un peu l'envie. Enfin, tu te poses plein de questions en fait.
C'était aussi un des paris du film, c'est de prendre un été apparemment banal, apparemment insouciant, où on est encore pleinement dans l'enfance, mais de commencer à y voir un certain rapport au monde adulte, des questions de transmission, des questions même de peut-être reprise de la ferme. Alors encore une fois, ça passe pas forcément par du discours au sens où on demanderait à l'enfant ce qu'il a envie de faire plus tard. Ça me paraissait très lourd de le faire comme ça. Mais les questions, elles sont là, on va dire, en filigrane. Et je pense qu'on voit ce gamin évoluer au fur et à mesure du film.
Oh, il y a un vélo!
Très attachant, avec des personnages solaires et charismatiques, faisant aussi un pas de côté avec cette lumière, cette insouciance, par rapport à un quotidien agricole souvent présenté dans les médias comme sombre, voire catastrophique, sans oublier pour autant la question inévitable de la transmission. Un été à la ferme touche juste, et pour ne rien gâcher, le documentaire est magnifiquement filmé.
Un été à la ferme d'Hugo Willock. Et Matteo, votre deuxième conseil de la semaine, eh bien c'est aussi un documentaire. Il s'appelle Orwell 2+2=5. Il est signé Raoul Peck, un réalisateur haïtien.
Connu pour ses films forts et engagés comme I Am Not Your Negro ou Lumumba, il a présenté ce documentaire au dernier festival de Cannes. Et c'est peu dire que l'œuvre de George Orwell, en particulier sa célèbre dystopie 1984, pourtant écrite en 1948, n'a jamais semblé autant d'actualité. À l'heure de la montée des totalitarismes, de l'imprévisibilité des chefs d'État, Donald Trump ou Vladimir Poutine parmi d'autres, ou encore les menaces informatiques entre piratage et détournement d'intelligence artificielle, pendant près de deux heures, Raoul Peck fait dialoguer le texte d'Orwell avec des images de conflits internationaux ou de mensonges d'État des années 1930 à nos jours, pour un résultat à la fois brillant et glaçant.
Parfois, en salle de montage, on n'en croyait pas nos yeux. Où les images qu'on recevait dépassaient les mots qu'on avait, et c'était l'embarras du choix. À tel point qu'il répondait exactement à ce que Orwell avait écrit. Mais déjà au montage, on a déjà une quantité d'archives, on pourrait s'y perdre.
Quand je m'assieds pour écrire un livre, je l'écris à cause d'un mensonge que je veux dénoncer.
La portée de ce qu'il avait écrit était universelle. Il critiquait toute tendance autoritaire, y compris dans les démocraties occidentales. Parce qu'il nous dit, en fait, il faut tout le temps faire attention. La démocratie, c'est pas quelque chose, une denrée. On prend une cuillère de sirop et puis ça y est, une fois pour toutes. Non, c'est un combat quotidien.
Le concept même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde.
Parmi les autres films en salle depuis mercredi, je vous conseille la comédie dramatique américaine Is This Thing On de Bradley Cooper sur un couple new-yorkais qui bat de l'aile et dont le mari se relève grâce à pratiques inattendues du stand-up. Et dans un tout autre genre, le film iranien Woman and Child de Saïd Roustahi, auteur des brillants La loi de Téhéran et Leïla et ses frères, un joli portrait de femme au cœur d'un mélodrame plutôt réussi, même si moins fort que les deux films précédemment cités.
Merci Matteo Maestrachi, notre expert cinéma cette semaine. Les conseils du service culture de France Info sont réunis sur franceinfo.fr.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi ? Sa conduite, son look so British ?
Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E Finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Et Patricia Charbonnier, c'est encore de la douceur qui nous attend aujourd'hui.
Oui, les températures baissent un petit peu, surtout cet après-midi, mais on restera 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Météo France prévoit 11 degrés de minimum à Dunkerque, 13 à Paris, 14 à Bayonne et jusqu'à 17 degrés à Bastia. Côté ciel, c'est encore assez nuageux dans l'ensemble. On a encore quelques pluies qui vont faire un petit peu de surplace tout au long de la journée entre la Franche-Comté et les Pyrénées. Quelques pluies ce matin sur le nord, un petit peu plus d'éclaircies cet après-midi. Dans l'après-midi, on aura plutôt un régime d'averse sur une bonne partie du pays. Et puis le ciel sera plus lumineux cet après-midi dans la partie sud-est.
Merci d'écouter France Info, il est 6h30.
France Info. Diane Ferchit.
Santé publique France acte la fin de l'épidémie de grippe. La campagne de vaccination se terminait d'ailleurs aujourd'hui, l'heure de faire le bilan. Et Solène Lehen, cette épidémie a été plutôt modérée cet hiver.
La courbe des infections a été somme toute classique, loin des sommets de l'an dernier par exemple, où la grippe avait tué 17 600 Français. Le bilan des décès de cette année, il est encore trop tôt pour l'établir, mais dans les hôpitaux, si l'activité a été soutenue au moment du pic fin décembre, dans l'ensemble, les services n'ont pas été saturés. Il faut préciser que cette année, les Français se sont fait vacciner en nombre et assez tôt dans la campagne pour être protégés au moment du pic. Plus de 12 millions de vaccinés, soit quasiment la moitié des personnes à risque. Et si les virologues avaient au début de l'épidémie une crainte sur l'efficacité du vaccin face au virus en circulation, ils semblent aujourd'hui rassurés. Le docteur Antonin Ball, directeur adjoint du Centre de référence des virus des infections respiratoires.
On a un vaccin qui fonctionne plutôt bien contre l'infection et encore davantage contre les formes sévères. Donc effectivement, ça a contribué à avoir une épidémie relativement modérée.
L'épidémie de grippe se termine en ce moment dans l'Hexagone, mais elle se poursuit en revanche dans les Antilles et en Guyane.
Une précision signée Solène Lehen pour France Info. Le financier et criminel sexuel Jeffrey Epstein a joué les intermédiaires lorsque l'ancien diplomate français Fabrice Edan a été licencié de la banque Edmond de Rothschild. C'est ce qui ressort des documents publiés par la justice américaine, analysés par la cellule investigation de Radio France. Fabrice Edan soupçonné de consulter des sites pédopornographiques. Il a fait l'objet d'une enquête du FBI, enquête classée sans suite. Le Conseil d'État confirme la classification à l'extrême gauche de la France Insoumise et celle de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, à l'extrême droite. Les deux partis contestent. C'est la première fois que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est classé à l'extrême gauche depuis sa création il y a 10 ans, ce qui indigne le député insoumis du Nord Aurélien Lecoq.
Cette décision du Conseil d'État, elle est à la fois stupéfiante et assez indigente. Le fait que le Conseil d'État aujourd'hui n'ait pas le courage de tenir tête à l'instrumentalisation politicienne qui est faite par le gouvernement est une alerte pour notre démocratie. La Macronie aura fait beaucoup de mal à notre démocratie, à notre République, puisque désormais, c'est eux qui décident de catégoriser leurs opposants politiques, ce qui est absolument ahurissant. L'étiquette d'extrême-gauche est factuellement fausse. L'objectif du gouvernement, en décidant de qualifier la France insoumise d'extrême-gauche, reprenant par ailleurs les discours réguliers de l'extrême-droite, vise à une normalisation de l'extrême-droite, vise à banaliser ce qu'est le Rassemblement national. Nous espérons bien que les Françaises et les Français ne se tromperont pas et répondront de la meilleure des manières dans les urnes aux élections municipales.
Le député insoumis du Nord, Aurélien Lecoq. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis ainsi que les médiateurs dans ces discussions, les médiateurs omanais qui affirment que Téhéran accepte de ne pas stocker d'uranium enrichi. Pour autant, Donald Trump fait part de son mécontentement. Il dit ne pas avoir encore pris de décision sur d'éventuelles frappes en Iran. Les États-Unis qui ont néanmoins recommandé à leur personnel non essentiel présidentielle de leur ambassade à Jérusalem de quitter Israël. La France ainsi que l'Allemagne déconseille également les voyages en Israël. Le drone neutralisé par les forces armées suédoises non loin du Charles de Gaulle mercredi était bien russe. C'est ce qu'affirme Stockholm après analyse. L'appareil a été neutralisé au moment où il a été détecté. Le Charles de Gaulle faisait escale à Malmö en Suède. Pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, c'est une provocation ridicule. L'ONG Greenpeace affirme qu'on veut la faire taire en la ruinant. Greenpeace, condamné aux États-Unis à verser 345 millions de dollars de dommages et intérêts à l'exploitant d'un oléoduc auquel elle s'était opposée. L'ONG dit ne pas pouvoir payer une telle somme. Elle a l'intention de faire appel. 6h34, merci d'être avec nous sur France Info.
France Info Sport avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Rendez-vous sur FreePro.com.
L'heure des sports avec cette occasion ratée pour Lens en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 de football. Les Sang et Or qui ne sont pas parvenus à reprendre la tête du championnat hier soir avec ce match nul un partout à Strasbourg, Jean-Pierre Blimeau.
Difficile pour Lens de se contenter d'un score de parité lorsque l'occasion était si belle de doubler à nouveau le PSG dans un mano à mano qui pourrait s'annoncer palpitant jusqu'à la fin de la saison. Rapidement mené au score, les Lensois ont recollé en deuxième mi-temps, mais incapables de transformer leurs nombreuses occasions en but qui leur aurait permis de remettre un coup de pression sur les Parisiens, les Lensois doivent se contenter de rester en embuscade. C'est le message du gardien Robin Risser qui jouait hier soir contre son club de cœur.
On sait à quel point c'est une belle équipe et ce soir, je pense que on mérite de repartir avec les 3 points, mais il faut se contenter du point du match nul. On enclenche une dynamique positive et les compteurs y tournent de nouveau.
Il faut dire que le week-end passé, les Lensois se sont sabordés face à Monaco. Alors hier soir, ne pas perdre un match que Lens aurait pu gagner, c'est déjà ça, même si l'entraîneur Pierre Sage est ressorti déçu.
Déçu du résultat, mais fier de la réaction des joueurs et du match qu'on a livré. J'aime l'attitude. C'est vrai que le résultat aurait récompensé les joueurs et leurs efforts. Mais dans tous les cas, voilà, on vient de perdre un match. C'était important de nous envoyer un autre message. Et on l'a très bien fait ce soir.
D'ailleurs, côté strasbourgeois, on ne faisait pas non plus la fine bouche après ce résultat de parité. Le défenseur Ismaël Doucouré.
Le RC Lens, on connaît sa force de frappe. C'est une équipe qui est presque leader de ce championnat. C'est pas anodin, c'est pas pour rien. Donc faire un match nul à domicile, c'est une bonne chose.
Pour le capitaine lensois Adrien Thomasson, l'essentiel était aussi de montrer que la douloureuse défaite du week-end passé face à Monaco était difficilement compréhensible et qu'il fallait rebondir.
De toute façon, on savait que c'était un accident. On savait aussi qu'un gros test nous attendait ce soir, mais on a vraiment répondu présent. Dans le rapport de force, on était supérieur à eux, même si ça reste encore une fois une très belle équipe. Mais voilà, on continue notre chemin. On a la Coupe de France qui est un objectif aussi important pour le club. Et après, on a 3 matchs avant la trêve internationale qu'il faudra bien négocier en championnat.
Car le Racing Club de Lens peut en effet s'offrir le luxe d'une fin de saison exceptionnelle. Il est en course pour la Coupe de France, que le club artésien n'a jamais gagné, avec d'abord un quart de finale à disputer jeudi prochain à Lyon. Et puis il y a cette fin de championnat qui pourrait s'annoncer grandiose si les Lensois parviennent à garder le contact avec le PSG.
Jean-Pierre Blimeau et le PSG, lui, se déplacent au Havre ce soir à 21h05. Avant cela, 2 autres matchs à suivre en Ligue 1. Rennes-Toulouse, c'est à 17h et le déplacement d'Angers à Monaco, coup d'envoi à 19h. C'est la reprise pour la saison des sports mécaniques, la Formule 1 la semaine prochaine en Australie et la MotoGP ce week-end en Thaïlande, le premier des 22 Grands Prix au programme. Et l'Espagnol Marc Marquez qui remet son titre de champion du monde en jeu, Guillaume Batin.
Marc Marquez attaque la saison en grand favori et l'un des objectifs de l'Espagnol, c'est de dépasser Valentino Rossi, la légende italienne aujourd'hui retraitée. Ils ont tous les deux 9 titres de champion du monde, dont 7 en catégorie reine. L'ancien pilote Régis Laconi.
Combien en plus de titres il aura que Valentino, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est sûr et certain. Dans sa tête, il le sait, il faut juste qu'il ne fasse pas des erreurs qui peuvent justement lui faire payer des grosses blessures, comme ce qu'il avait eu avec ce bras qu'il a quand même pénalisé pendant un très long moment.
Et ce titre mondial supplémentaire, personne ne le voit échapper à Marquez. C'est lui l'ultra favori, le meilleur pilote au guidon de la meilleure moto.
Qui peut être plus fort que Marquez? Qui peut succéder à Marquez? Moi, je dirais Marquez, c'est tout. Parce que des évolutions au niveau des motos, ça ne va pas être des grosses évolutions, à part la Yamaha qui, elle, est passée en V4.
La nouvelle Yamaha que pilotera encore cette saison le français Fabio Quartararo, 9e du championnat l'an dernier, avec 5 pole positions, un podium, une 2e place en Espagne, et qui s'est blessé en Malaisie pendant les essais.
Je pense qu'il ne faut même pas penser au début de saison. Il faut prendre les premiers mois comme des tests, c'est-à-dire vraiment essayer de s'améliorer. On voit les positions qu'on est, toutes les Yamaha, Je pense qu'il faut se concentrer sur essayer d'améliorer la moto et pas penser aux positions qu'on va faire au final. Il faut réussir à améliorer notre confiance, améliorer la moto, c'est le principal.
Fabio Quartararo au micro de Canal+. Quant à Johan Zarco, l'autre Français, 12e du classement l'an dernier avec sa magnifique victoire au Grand Prix de France, sa deuxième place également en Grande-Bretagne, il repart avec une Honda qu'il juge performante.
On sent que la moto va vite. Marini et Mir étaient super positifs. Moi, je ne pouvais pas l'être parce que non, ça ne matchait pas avec le pilotage que j'aime faire. Mais ensuite, ça a commencé à le faire un petit peu mieux à chaque fois. Et ça fait du bien. Donc, plutôt content, terminé sur une bonne note.
Le MotoGP accueille deux nouveaux pilotes cette saison. Le Turc Toprak Razgatlioglu chez Pramac et le nouveau coéquipier de Johan Zarco chez Honda, le Brésilien Diogo Moreira, le champion du monde de Moto2.
Et on suivra ça avec attention. C'était Guillaume Batin pour France Info. Dans les prochaines minutes, le choix de France Info et la question des cantines de nos écoles. C'est l'un des enjeux des élections municipales, mais d'abord la crise de la filière bovine en France et ses conséquences sur le secteur du cuir.
France Info, 6h-7h, Diane Ferchit.
Dernier week-end pour le Salon de l'Agriculture, il ferme ses portes demain. Cette 62e édition restera dans l'histoire du Salon comme la première sans aucun bovin. Les éleveurs n'ont pas voulu emmener leurs vaches en raison de la dermatose nodulaire. Un épisode de plus dans la crise que traverse l'élevage français. Le nombre de vaches baisse depuis 40 ans, ce qui a des conséquences sur la filière cuir. Une filière, Édouard Marguier, qui est obligée de s'adapter.
Des dizaines de morceaux de cuir sont présentés sur le stand, des marrons, des jaunes, des rouges qu'on peut sentir, toucher et découvrir, comme cette nouveauté qui n'est pas du cuir de vachette.
En fait, c'est du cuir élastique, c'est un cuir d'agneau qui a été désépaissi très très fin.
Sophie Hivert de la Fédération française de la tannerie.
Et donc ça peut être utilisé pour les leggings, les vestes, les bottes. Et un autre point important aussi par rapport à ce cuir, c'est qu'il est lavable.
Faire évoluer les matières est indispensable selon elle.
Le cuir existe depuis des milliers d'années et sans l'innovation, on ne serait plus là aujourd'hui parce qu'il a fallu vraiment qu'on s'adapte. Donc en fait, si vous voulez, on peut faire de la peau d'autruche comme vous avez ici parce qu'il y a des élevages d'autruches en France pour la viande d'autruche, principalement pour les fêtes ou autres. Mais vous avez aussi, assez méconnu, de la peau de poisson.
Les tanneurs utilisent donc ce qui est disponible. Aucun animal n'est tué pour sa peau, rappelle Marc Brunel. Il est le directeur général de l'Alliance France Cuir.
Les animaux sont élevés pour la viande et pour le lait. Et au moment de l'abattoir, nous collectons les peaux, qui est en fait un déchet de l'industrie. Et nous leur donnons une seconde vie en transformant les peaux en cuir, matière plus connue par le consommateur et le grand public en fait.
Le cuir de vache reste majoritaire en France, mais le nombre de bovins sortis des abattoirs français a fortement diminué. De 4,5 millions de têtes en 1985, on est passé à 3 millions.
De toute façon, les chiffres sont implacables.
La baisse est particulièrement marquée pour le cuir de veau. Cette viande est moins consommée. Moins d'un million de veaux ont été abattus en 2024. C'était trois fois plus il y a 40 ans.
On est vraiment unique au monde pour faire ce type de matériaux de qualité. Et donc, c'est sur le veau qu'aujourd'hui, on focalise notamment notre attention. Il n'y a pas encore de tension trop forte, mais avec des baisses de ce type-là, on pourrait avoir des problématiques dans les années à venir.
170 000 personnes travaillent dans ce secteur en France, qui reste tout de même le troisième pays exportateur de cuir, derrière la Chine et l'Italie.
Un France Info reportage signé Édouard Marguier.
L'info sur France Info, c'est aussi votre vie quotidienne.
Cette habitante de zone rurale doit désormais prendre sa voiture pour aller jeter ses déchets.
Bon, moi je peux bouger, j'ai une voiture. Il y en a qui le font à pied avec des charrettes, ceux qui n'ont pas de véhicule et tout. Hein. L'autre contrainte, c'est que quand il fait chaud, 5 minutes dans la voiture, c'est infernal. Les odeurs, c'est une horreur.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
4 anneaux, une évidence. Découvrez l'Audi Q4 e-tron, le SUV compact 100% électrique, en finition S-Line suréquipée. L'incontournable de la gamme, avec une autonomie allant jusqu'à 545 km. À partir de 490 euros par mois avec apport. Réservez votre essai chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 7 300 euros, ramené à 2 700 euros après déduction de la prime CE. Valable pour toute commande d'une Audi Q4 e-tron dans le réseau participant en France. Offre réservée aux particuliers, si accord par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer.
À partir de 65 ans, on a plus que jamais envie de
bouger.
Profiter.
S'éclater.
Se dépasser.
Ne laissez pas la pneumonie à pneumocoque vous priver de ces moments de vie. Avec l'âge, votre système immunitaire s'affaiblit. La vaccination et les gestes barrières peuvent vous protéger de conséquences parfois graves. Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes à risque. Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier. Cette campagne d'information est à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi ? Sa conduite ? Son look so British ? Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Roulez dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Info. 6h, 7h.
Il est 6h moins le quart à suivre le choix de France Info, direction les Alpes-Maritimes. Ce matin, une commune qui a son propre terrain et ses propres maraîchers pour fournir ses cantines scolaires. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est avec vous Sarah Dair, c'est l'affaire Jeffrey Epstein avec ses nouvelles révélations en France.
Le financier américain et pédocriminel a joué les intermédiaires entre la banque Edmond de Rothschild et Fabrice Eden. Jeffrey Epstein a tenté de l'aider quand il a été licencié de la banque en 2016. Le diplomate français soupçonné d'avoir consulté des sites pédo pornographique. Greenpeace, menacée de disparition aux États-Unis, l'ONG doit 345 millions de dollars à Energy Transfer, le constructeur d'un oléoduc. Greenpeace reconnu coupable de diffamation, complot et violation de propriété privée. La mère du meurtrier de Mathis, condamnée à Châteauroux à 2 ans de prison, dont 10 mois ferme. Mathis tué à 15 ans de plusieurs coups de couteau. La mère lui a asséné des coups alors que l'adolescent gisait au sol. Lens ne reprend pas la tête de la Ligue 1 de football après son match nul hier à Strasbourg, 1-1. La 24e journée se poursuit aujourd'hui avec Rennes-Toulouse à 17h et Monaco-Angers à 19h.
France Info.
Et le choix de France Info à 15 jours du premier tour des élections municipales avec la restauration scolaire qui s'invite à la table de la campagne. Selon une enquête Ipsos, plus de 8 Français sur 10 estiment que ce devrait être considéré comme une priorité lors de ces municipales. Direction ce matin le sud de la France, précisément à Moins-Sartoux. C'est près de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Il y a 15 ans, jour pour jour, la mairie a fait le choix d'acheter un terrain et de salarier des maraîchers pour produire ses propres légumes bio et alimenter ses cantines. Elle était la toute première commune à se lancer dans ce pari fou. Et désormais, Johanna Yakin, elle est devenue un modèle.
Il est midi à l'école Jacob, au menu riz à la cantonaise et tortilla aux légumes. Les enfants prennent plateau et couvert et devant la cuisinière.
Bonjour, une portion normale de risotto, s'il vous plaît, avec un petit peu d'omelette.
Bonjour, beaucoup de tout, s'il vous plaît.
Un petit peu de riz, un petit peu de maïs, s'il vous plaît.
Chaque enfant dit la portion qu'il souhaite. Objectif, éviter un maximum que le repas finisse à la poubelle.
Oui, bien sûr, comme ça il y a moins de gaspillage. Alors, aux plus petits, on donne une petite portion et ils reviennent. Et les plus grands nous disent exactement ce qu'ils souhaitent.
Des seaux sont aussi installés au milieu du réfectoire. Les enfants y jettent leurs restes à la fin du repas. Ayette est la chef de cuisine.
Nous, on a un classeur de déchets, retour déchets. En fait, on pèse tout pour calculer les déchets à la fin par enfant, combien de déchets dans l'assiette.
Parce que pour faire du 100% bio sans faire exploser la facture, la commune a trouvé deux astuces. Réduire le gaspillage et limiter la consommation de viande. Gilles Perrol, adjoint à l'alimentation.
Cette cantine 100% bio qui a diminué de 80% le gaspillage alimentaire avec 50 menus végétariens permet de faire du 100% bio sans surcoût. Parce que le coût d'achat matière est inférieur à la moyenne nationale.
Ce virage du bio, Moins-Sartoux l'a commencé dès la fin des années 90 et la crise de la vache folle.
Ça a été un vrai choc, une vraie prise de conscience. Et on a continué à servir du bœuf, mais du bœuf bio, parce que lui n'était pas alimenté aux farines d'animal. Le dernier déclic, ça a été le Grenelle de l'environnement en 2007, qui prévoyait déjà 20% de bio en restauration collective, comme la loi Egalim. Et on s'est dit, mais si le bio est important pour la santé et l'environnement, pourquoi se limiter à 20%?
En 2010, la commune préempte un terrain de 4 hectares pour 1 million d'euros. Un an plus tard, elle embauche son premier agriculteur. C'est la naissance de la régie agricole municipale. 15 ans plus tard, la ferme emploie 4 maraîchers.
Enchanté, Denis.
Bonjour.
Sébastien.
À 2 pas du centre-ville, nous voici sur la ferme. Une vue magnifique sur les préalpes, des champs pour la culture de plein air et 8 serres.
Dans lesquelles il y a les fins des légumes d'hiver qui sont en train d'être récoltés. Donc on a les choux pointus, on a du persil, on a de la salade, des carottes qui arrivent, des pois. gourmand. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare aussi les prochaines cultures, les tomates, les aubergines, donc là, qui vont arriver et qui vont être plantées au mois de mars pour avoir une récolte au mois de juin, juillet. Quoi.
Ici, pas de produits chimiques, évidemment. Et on arrive quand même à produire 25 tonnes de légumes bio par an pour les 4 écoles de la commune, toutes équipées de leur propre cuisine. Pendant que les ouvriers s'affairent à remplacer les bâches usagées des serres, à quelques mètres, une classe est venue pour un atelier au potager.
Tiens, vas-y, plante-la au bord. C'est bon, tout le monde a mis sa petite graine.
Le site accueille régulièrement des scolaires pour tout un volet pédagogie, mais aussi des élus qui veulent voir comment ça marche. Récemment, des Corses et même des Polonais sont venus visiter. Au total, 800 collectivités ont cherché les conseils de Moinsartou. Forte de son expérience, la commune est même désormais à la tête du réseau national des fermes municipales.
Ce qui les impressionne, c'est l'aboutissement du projet, en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi un risque que ça les impressionne. C'est-à-dire que, et c'est souvent un message que je leur passe, nous, on en est aujourd'hui à un résultat de 20 ans de travail en politique publique de l'alimentation. Et les gens qui viennent, il ne faut pas qu'ils soient découragés. On peut montrer qu'une politique donne des résultats, parce qu'en plus, leur impact a été évalué par des chercheurs. Mais c'est un travail de longue haleine. Le plus important, c'est de commencer vite et de ne pas s'arrêter.
Il faut dire que Moinsartou a aussi pu compter sur une stabilité politique. Andreas Kéry, de sensibilité écologiste, est resté maire durant 41 ans. Et c'est son fils, Pierre, qui a pris la relève. Élu à près de 80% aux dernières municipales. Et les habitants ne semblent pas prêts de vouloir changer.
Ah, moi, je suis super content. La qualité, c'est super. Le fait d'avoir des produits bio quasiment à tous les repas, c'est super.
C'est hors du commun. On a un maire qui est juste incroyable depuis des décennies. Ils prennent des mesures, ils disent des choses, ils font les choses. Bah, évidemment, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ?
Un maire qui n'a pas vraiment de soucis à se faire pour le scrutin à venir. Son principal et historique opposant de droite a également fini par rejoindre sa liste.
Le choix de France Info avec cette initiative pour les cantines scolaires à Moinsartou. Choix signé ce matin, Johanna Yakin. Dans quelques minutes sur France Info, le billet science, on partira à la découverte d'un petit poisson à la très grande intelligence. Mais d'abord, comme tous les samedis, portrait d'actu. Et France Info vous propose ce matin de mieux faire connaissance avec l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner. On en a surtout parlé jusqu'à présent pour ses bourdes diplomatiques. Celui qui est avant tout un homme d'affaires s'est permis de faire des commentaires sur la mort de Quentin Derenck et il ne s'est pas rendu aux convocations du Quai d'Orsay. Son portrait est signé Anne Lamotte.
Charles Kushner ne parle pas français. Avant d'être nommé ambassadeur à Paris, il était venu en France peut-être une quinzaine de fois, notamment pour l'anniversaire de sa femme. Au fil des années, le couple pose en amoureux devant le Louvre ou la Tour Eiffel. Mais il l'avoue, le pays, il le connaît mal. Et la diplomatie, il n'y connaît rien. En fait, comme Donald Trump, Charles Kushner est un homme d'affaires, mania de l'immobilier, empire estimé à plus de 7 milliards de dollars, plus que le président américain. Le business, ok donc, mais le protocole, très peu pour lui. Quant à la loi, il l'a déjà bafouée. En 2005, dans l'État du New Jersey, où il a grandi, Charles Kushner est poursuivi pour 18 chefs d'accusation, dont évasion fiscale et subornation de témoins. Une histoire sordide. À l'époque, son beau-frère, le mari de sa sœur, veut témoigner contre lui. Il emploie les grands moyens, chantage à la sex tape. Écoutez Chris Christie, ancien candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Il se trouve avoir été procureur dans cette affaire.
C'est un homme qui embauche une prostituée. Elle séduit le beau-frère. Ils sont filmés. Et ensuite, il envoie la cassette à sa propre sœur. Tout ça pour intimider et faire en sorte qu'il n'y ait pas de témoignage contre lui devant le grand jury. C'est l'un des crimes les plus dégueulasses et les plus détestables que j'ai poursuivi quand j'étais procureur.
Charles Kushner passe 14 mois en prison, mais il explique qu'il s'est adapté. Il raconte qu'il a appris sur lui, sur la finance. Tous les jours, il a lu le Wall Street Journal scrupuleusement, de la première à la dernière page. Aujourd'hui, il trouve que c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle, la source la plus fiable. Au final, pour lui, l'expérience de la cellule est bénéfique. Il le confie l'année dernière devant le Sénat américain qui doit valider sa nomination en tant qu'ambassadeur.
I made a very, very, very serious mistake.
J'ai fait une très, très, très grosse erreur. Je l'ai payé très cher. Mais je pense que ces erreurs passées font que mon jugement, la façon dont je vois la vie et mes valeurs sont meilleures aujourd'hui. Elles me rendent plus qualifié pour ce travail. Plus que si je n'avais pas été en haut de la montagne avant de la dégringoler.
off that mountain at some point in my life.
Durant cette audition, Charles Kushner n'oublie pas de préciser une des lignes à laquelle il tient sur son CV. En 2020, il est gracié par Donald Trump. Il faut dire qu'à ce moment-là, qui fait partie des principaux conseillers de Trump ? Jared Kushner, son fils aîné qui est aussi le gendre du président américain. Résultat aujourd'hui, Charles Kushner et Donald Trump ont 3 petits-enfants en commun. Avant d'être le président des États-Unis, c'est un ami proche, c'est la famille, dit Kushner. Et la famille, pour lui, c'est sacré, comme sa foi. En juillet 2025, pour son premier déplacement en tant qu'ambassadeur américain en France, il choisit le mémorial de la Shoah à Paris. Il est juif orthodoxe, ses parents étaient des immigrés polonais, il le rappelle souvent.
Bonjour.
Comme ici, dans sa vidéo de présentation sur le site de l'ambassade américaine.
Mes parents, Joseph et Ray Kushner, étaient des survivants de l'Holocauste. Ils sont arrivés aux États-Unis en 1949. C'est leur force et leur conviction qui m'ont construit.
Et très vite, en août 2025, un mois seulement après son arrivée à Paris, Charles Kushner sort de son rôle d'ambassadeur et accuse publiquement Emmanuel Macron. Il lui reproche de ne pas assez combattre, je le cite, la flambée de l'antisémitisme en France. Et d'après lui, reconnaître l'État palestinien comme le président français s'apprête alors à le faire, ça encourage les extrémistes. Il utilise là le même argument qu'un vieil ami à lui, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Illico, Charles Kushner est convoqué au ministère des Affaires étrangères. À la place, il préfère rester sur la Côte d'Azur et envoyer son numéro 3. Mais l'ambassadeur le jure, son but n'est pas de contrarier Emmanuel Macron. Et puis, il a d'autres chats à fouetter. Comme organiser un match de Ligue nationale de football américain cet automne au Stade de France. Une première dans le pays. L'occasion pour lui de poster sur les réseaux une petite imitation avec lunettes de soleil.
Monsieur l'ambassadeur, c'est confirmé, la Ligue nationale de football américain arrive à Paris ?
For sure.
Là non plus, l'ambassadeur américain ne voulait sans doute pas irriter le président français.
Un portrait signé Anne Lamotte à retrouver sur franceinfo.fr et sur l'appli Radio France. On se penche sur une nouvelle découverte scientifique. Bill François est en votre compagnie pour le billet science, Renaud Blanc.
Le billet science à présent avec Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Une étude de l'université d'Osaka parue cette semaine a révélé des preuves sidérantes sur le QI d'un tout petit poisson des récifs coralliens.
Vous l'avez peut-être vu dans les années 2000 dans le film « Gang de requins » ou dans un aquarium ou dans un récif corallien. Ce petit poisson bleu, blanc et noir qui nettoie les autres poissons en les débarrassant de leur peau morte et parasites dont il se nourrit. Il se nomme le labre nettoyeur. Et ce mode de vie de nettoyeur lui demande d'être très rusé pour gagner la confiance de ses clients poissons. Surtout qu'il y a dans la mer des escrocs comme des blennies qui limitent mais mordent les clients au lieu de les nettoyer. Le labre va donc faire toutes sortes de parades pour prouver qu'il est le vrai nettoyeur et adopter des stratégies commerciales comme de privilégier les nouveaux clients lorsque ces derniers font la queue. Mais dans quelle mesure est-ce là une preuve d'intelligence ? Eh bien, dans un aquarium, des chercheurs ont tenté de mesurer les capacités cognitives du labre nettoyeur pour le savoir. Et pour ça, ils lui ont fait passer le fameux test du miroir.
C'est-à-dire qu'on le met face à un miroir, Bill ?
Et on regarde s'il a conscience de sa propre image. Alors, pour nous, ça nous paraît simple, mais seuls très peu d'animaux réussissent ce test. En mer, il n'y a que les dauphins ou leurs cousins comme les orques et les raies mantas qui s'en sortent avec les honneurs. Sur Terre, quelques autres animaux, grands singes ou éléphants d'Asie, y parviennent. Mais même des créatures très réputées, très intelligentes comme les chiens, les chats, les bébés de moins de 18 mois ou même les pieuvres échouent lamentablement. Un chien devant un miroir croit simplement qu'il voit un autre chien. D'ailleurs, souvent, il aboie et il l'attaque.
Et le labre, lui, réussit ce test.
Non seulement il se reconnaît dans le miroir, mais ça, on le savait depuis assez longtemps, mais il va plus loin encore et, ce qu'on vient de découvrir, il se sert du miroir comme outil. Quand on lui dessine de faux parasites sur la peau, il va devant le miroir pour se les retirer. Et il fait même de sa propre initiative des expériences, comme par exemple de transporter une crevette et la lâcher devant le miroir pour observer comment elle tombe. Ces résultats mettent en évidence un degré d'intelligence insoupçonné chez ce poisson, ce qui permettra de mieux comprendre comment le concept de conscience a évolué avec les animaux, et donc de mieux saisir les bases de l'intelligence même. La science souhaite donc à ce petit poisson de continuer à nettoyer pour rendre limpide la matière grise.
Le billet science signé Bill François sur France Info, bien sûr.
Groupama. Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour vous.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là.
Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, mais merci Cerise, je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
BMW.
Trois notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290 euros par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M-Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
Les températures baissent, Patricia Charbonnier, mais ça reste très doux.
Oui, toujours 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison cet après-midi. Météo France prévoit jusqu'à 16 degrés à Marseille comme à Strasbourg, 13 degrés à Paris et Toulouse, 12 degrés à Brest et 11 degrés à Lille. Et côté ciel, on a encore beaucoup de nuages et quelques pluies ce matin en particulier entre la Franche-Comté, le Massif central et les Pyrénées avec un petit peu de neige à partir de 1500 mètres. De la pluie également sur les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France sur la Champagne-Ardenne. Mais là, dans toute cette zone et sur la moitié ouest du pays, on retrouvera quelques éclaircies cet après-midi. Et dans le sud-est, là, les conditions météo sont plus calmes. On a de la grisaille ce matin, mais le ciel sera lumineux cet après-midi.
Patricia Charbonnier, presque 7h sur France Info, l'heure de retrouver William Gay-Costa. Bonjour William.
Bonjour Diane, on vous retrouve à 8h pour le journal. Et bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour William.
Laura Dulieu, Sarah Ders, l'équipe de l'Info réunie ce matin en studio dans ce 7-10. L'affaire Epstein avec de nouvelles révélations qui arrivent sur les relations entre le pédocriminel et un ancien diplomate français.